Bonsoir à vous. Une saison au théâtre avec ce soir le metteur en scène Christophe Rock. Nous avons en janvier pris l'avion et traversé l'Europe pour découvrir la dernière mise en scène de Christophe Rock, le patron du Théâtre du Nord de Lille. Nous avons, comme lui, fait le trajet jusqu'à Moscou pour voir, joué par des comédiens russes, la pièce de Molière « Amphitryon ». C'était au théâtre Fomenko, du nom du maître Piotr Fomenko, dont l'importance égale celle des artistes russes Anatoli Vassiliev ou Lev Dodin. Piotr Fomenko, immense pédagogue, formidable directeur d'acteurs, fondateur de ce théâtre d'alternance mais aussi d'expérimentation, est mort en 2012. Il a laissé derrière lui des comédiens orphelins, on les appelle les Fomenki. Ils sont doués, ils sont exigeants et ils sont particulièrement vigilants lorsqu'un metteur en scène venu d'ailleurs vient les prendre en main. C'était le cas de Christophe Rock, premier artiste français à franchir les portes du temple de Piotr Fomenko.
C'est lui qui a fait un peu révolutionner le théâtre. Donc c'est lui qui n'a pas eu peur d'aller créer quelque chose, d'aller parler aux gens et d'aller faire un peu ce qu'on dit en russe « experiment ». C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui n'existait pas jamais. Avant lui, c'était vraiment théâtre classique, si je peux dire ça. Et donc, avec Fomenko, je pense qu'en Russie, cette expérimentation qui s'est développée et commencé à mettre en place. Et donc là, aujourd'hui, clairement, il y a beaucoup de réalisateurs russes, les jeunes réalisateurs russes, qui n'ont pas peur de faire des choses. Parce que vous, il y avait cet exemple-là. Et là, justement, ce théâtre qui existe depuis 1993, voilà, c'est vraiment un exemple de cette longévité d'expérimentation.
Bonsoir Christophe Rock.
Bonsoir.
Et bienvenue dans Une saison au théâtre. Alors on va parler de cette création d'Amphitryon en russe au théâtre Fomenko. C'est un spectacle qu'on va, dans les jours qui viennent, voir au théâtre de Lille, chez vous, au théâtre du Nord, et puis ensuite qui viendra au théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis. On va parler ensemble de cette fabuleuse aventure qui vous a vu travailler pendant plusieurs semaines avec les Fomenki. On va entendre les Fomenki. Mais avant cela, pour faire suite à ce qu'on vient d'entendre, j'aimerais qu'on revienne sur cette figure de Piotr Fomenko. Katia, c'est elle qui était interviewée, est une jeune journaliste russe. Elle vit à Moscou. Elle a une vingtaine d'années et elle salue, alors qu'elle a 20 ans, elle salue l'impact et l'importance que ce metteur en scène a, semble-t-il, occupé à Moscou et au-delà en Russie. Est-ce que vous pouvez nous en parler de Piotr Fomenko ?
Alors moi, je ne le connaissais pas personnellement. Hein. Je le connais à travers les acteurs avec lesquels il a travaillé. Les premiers à m'en parler très fortement, c'était les acteurs de la Comédie française. Et d'ailleurs, je pense que c'est avec eux, et c'est peut-être aussi grâce à ce personnage qui flottait un petit peu entre nous, qui a fait que le spectacle que j'avais monté avec eux, le mariage de Figaro, avait cette dimension un petit peu lyrique, qui est pas forcément un peu ma marque de fabrique. Donc voilà, j'ai commencé à... D'abord, je connaissais ces spectacles. Hein. C'était des spectacles qui, dès que je les ai vus, moi, m'ont tout de suite attrapé, et pour diverses raisons. D'abord parce que je pense que il y a une musicalité dans ces spectacles qui est extrêmement rare, une délicatesse qui est très très rare. Très rare dans le théâtre en général, mais particulièrement dans le théâtre russe. Voilà, c'était ça surtout que je trouvais qui était assez étonnant, des spectacles très féminins, avec des comédiennes absolument magnifiques, magnifiées aussi hein, par son regard, par cette façon de mettre en scène les femmes qui lui était toute particulière. Et puis des pièces de répertoire toujours à questionner à travers des formes à la fois très simples, mais en même temps toujours en lien avec l'actualité et la modernité du moment.
C'est en 1993 que Piotr Fomenko a lancé sa grande aventure et qu'il a constitué son noyau d'acteurs. Et c'est dans ce noyau d'acteurs originel que vous êtes allé chercher. Alors, il y a une comédienne qui n'est pas présente sur le plateau, mais qu'on a rencontrée à Moscou. Elle s'appelle Madeleine et elle est là depuis les origines. Elle nous parle, elle aussi, de Piotr Fomenko.
C'était un metteur en scène qui est resté dans mon cœur. Il est parti dans le monde entier et j'espère qu'il se trouve avec nous maintenant, il ne nous abandonne pas. Il était un peu musicien et je crois que la musique est restée dans les spectacles. Et quand je travaille maintenant, je toujours pense à la musique, les intonations, les choses comme ça. C'est lui qui a fait ça avec moi. Il connaissait bien l'âme de femme.
Est-ce qu'il a des héritiers, Fomenko ? Est-ce qu'il y a un après Piotr Fomenko en Russie ?
Je crois que maintenant, c'est la période très difficile, très, très difficile pour notre théâtre parce que nous sommes restés sans père. Mais je crois qu'après, peu à peu, on peut faire quelque chose avec ça et la vie coule, la vie ici chez nous, il faut être très attentif de choisir les metteurs en scène. C'est pourquoi je suis très heureuse que nous avons choisi Christophe Rock, par exemple.
Vous, étant actrice,
oui.
Ce que vous demandez à un metteur en scène, d'abord et avant tout, c'est quoi ?
Est-ce qu'il y a en français le mot le chaos ? Oui. J'attends de ne pas faire le chaos sur la scène.
Alors, je pense que vous n'avez pas fait le chaos sur la scène, Christophe Rock, mais avez-vous pris la place du père ?
Non. Non. Non, parce que d'abord, moi, je suis français, donc on n'a pas le même rapport aux metteurs en scène que eux. Eux, ils ont un rapport très religieux, presque, avec certains metteurs en scène. Hein. Les grands maîtres, j'ai envie de dire, hein, comme l'était Fomenko, comme l'est encore Vassiliev ou Dodin. Nous, c'est bien différent de ça. Ouais. Par contre, j'aime bien ce que dit Madeleine lorsqu'elle parle justement de la dimension musicale de ce metteur en scène. Il faisait de la musique, en fait, sur le plateau. Et ils faisaient de la musique avec eux, avec leur voix. C'est pour ça qu'il est unique. Et c'est pour ça que...
On ne le remplace pas.
On ne le remplace pas, non. Mmh. Parce qu'il a inventé quelque chose. Et il a inventé cette chose avec cette promotion. Hein. Il faut savoir qu'il avait... Il travaillait déjà au Gitis. Il avait
l'école.
Voilà,
l'école d'acteurs.
L'école d'acteurs. Et puis, il est tombé sur cette promotion. Absolument magique, celle de 93, avec laquelle il sort 4 ans plus tard.
Loup et brebis ?
Il sort Loup et brebis.
Qui est venu
en
France,
voilà,
qui a fait un
énorme
succès.
Il sort en 93 Loup et brebis avec cette promotion, et à partir de là, il fonde sa troupe. C'est ça que je trouve tellement beau avec cette histoire, c'est que à la fois il y a une histoire qui se crée avec des gens. Et en même temps, elle est complètement reliée à cette personne et elle s'arrête. En tout cas, ce théâtre-là, cette façon de faire du théâtre-là, s'arrête au moment où il disparaît. Alors, ils ont beau essayer de reprendre, puisque, bon, en Russie, la personne part, mais les écrits restent, les photos sont toujours là. Il y a toujours, quand on rentre sur un chevalet, la photo des disparus, avec à chaque fois une petite bougie, une fleur, etc. Mais il n'empêche qu'il n'est plus là. Et c'est ça que je trouvais qui était à la fois beau et en même temps lourd. Mmh. C'est-à-dire qu'ils sont, notamment certains qui étaient très très proches de lui, ou en tout cas qui ont su être sublimés par lui, et même sublimer ses mises en scène aussi, hein, puisque c'est un aller-retour et qu'un metteur en scène ne travaille jamais tout seul. Il n'empêche qu'on voit bien que là, il y a une interrogation sur le futur, sur l'après. C'est aussi pour ça qu'ils m'ont demandé de venir, hein, puisque il y avait à un moment donné quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à trouver entre eux.
Alors, on va continuer nos va-et-vient entre Paris et Moscou et revenir au théâtre Fomenko avec un Fomenki qui était en scène dans la représentation. Il s'appelle Karen Badalov. Il jouait le rôle de sosie dans la pièce Amphitryon. Sosie, c'est le valet d'Amphitryon. Je dis en deux mots l'intrigue de la pièce de Molière. Hein. C'est l'histoire du dieu Jupiter qui s'immisce dans le lit d'Amphitryon qui lui est parti faire la guerre et qui séduit sa femme. Et il se fait passer pour lui puisqu'il emprunte ses traits. Donc Karen Badalov joue sosie et lorsque j'ai vu la pièce à Moscou, la pièce était surtitrée, bien évidemment, mais alors curieusement, en Russie, on surtitre sur des tablettes. Donc les spectateurs ont des tablettes à disposition. Et c'est cette histoire de la traduction dont nous a parlé Karen Badalov après avoir parlé de son personnage de sosie.
Quand on m'a dit que c'est Molière lui-même qui jouait ce rôle, que le rôle était écrit par Molière pour lui-même, j'ai compris tout de suite que c'était hyper tragique. Donc mon problème, c'était de me trouver mon Louis XIV.
Et мне кажется, я нашел его в лице Кристофа.
Je crois que je me le trouvais en personne de Christophe Rock.
А если так серьезно, ну это
Sérieusement parlant, à part que pour moi Christophe était mon Louis XIV, c'était un travail vraiment compliqué parce que c'est bien difficile de travailler avec un metteur en scène qui parle pas ta langue.
Я не предполагал, что настолько много.
Et moi, je comprenais pas, je pouvais pas prévoir que de temps faudra pour commencer à se comprendre, pas même les paroles, mais ce qui est derrière les paroles, ce qui est plus que les paroles, les intonations, les tonalités, les sous-entendus, les gestes. Et à mon avis, dès qu'on a commencé à se connaître et à se comprendre dans ce sens, que le vrai boulot a pu commencer.
Я вас прошу нам помощь оказать. Юпитер дал мне поручение вам слово два сказать.
Как это вы, Меркурий?
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
Mais est-ce que les acteurs comme vous et comme pas mal de vos camarades sur scène formés par Piotr Fomenko, c'est-à-dire formés dans l'excellence du jeu d'acteur, ont des attentes particulières vis-à-vis des autres metteurs en scène?
Bien sûr, on a des attentes et des attentes assez haut placées. Avant tout, c'est l'attente de la profondeur, du sens et des paradoxes. Quand je parle de la profondeur, je parle surtout de ce qui fait partie de la nature personnelle du metteur en scène, d'un homme. Quand je parle du sens, je veux dire c'est le savoir d'analyser la scène suivant les événements qui s'y produisent. C'est comme à l'école de théâtre, évidemment. Et le paradoxe, c'est ce que moi, avec toute mon école, toute ma maîtrise, toute mon expérience, j'attends pas du metteur en scène.
Profondeur, sens et paradoxe. On entend bien, hein, Christophe Rock, dans ses propos de Karen Badalov, que vous étiez en face quand même de personnes de caractère, hein, pour le dire gentiment. Mais c'est bien d'être en face d'acteurs comme ça qui ont l'air d'être des forces de proposition terribles, et peut-être aussi des forces d'opposition.
Ben disons que, en effet, hein, et Karen particulièrement, c'est un immense acteur, ça a été un des acteurs qui a toujours été au plus près de Fomenko. Il fait partie de ceux qui ont énormément souffert
de la mort de Fomenko,
de sa disparition. Oui. C'est assez paradoxal, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, en effet, ce sont des acteurs, d'abord, qui ne travaillent pas évidemment de la même manière que nous. Ils travaillent sur une méthode qui est la méthode Stanislavskienne, j'ai envie de dire. Mais en même temps, ils ont, comme c'est des immenses acteurs, ils comprennent que il y a des choses qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Avec Molière, en l'occurrence. Donc, ils ont pas de problème à abandonner certaines choses. Par contre, en effet, lorsqu'ils ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire ou lorsqu'ils ne sont pas d'accord, ils attendent et puis, à un moment donné, ils parlent, ils s'expriment. Mmh. Et généralement, c'est toujours très intéressant parce que ça nous pousse, nous, dans nos retranchements. C'est jamais « je ne veux pas le faire » pour une question simplement d'ego d'acteur ou, enfin voilà, d'un acteur étant au mauvais endroit. Non, c'est toujours en rapport, ce qu'il dit, en rapport au sens et au paradoxe. C'est-à-dire à l'endroit, enfin, à son endroit, lui. Comment lui va pouvoir, à travers les indications que je vais lui donner ou l'espace qu'on va lui proposer, comment lui va pouvoir développer son jeu et développer son parcours.
Est-ce que le ramener, étant invité là-bas, Christophe Rock, une pièce de Molière, répertoire français, plutôt qu'une pièce de Tchekhov, était une façon quand même de garder un peu d'espace à vous dès le départ, de garder un peu la main et de les obliger, eux, à se décentrer.
Non, c'est pas comme ça que je l'ai vécu. En fait, le choix d'Amphitryon est venu après plusieurs péripéties. Bref, au bout d'un moment, on est tombés tous d'accord sur cette pièce. Cette histoire était aussi l'histoire de comédiens russes et d'une équipe artistique française, puisque je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec les maîtres d'œuvre, lumière, son, scénographie, costume et dramaturge. Donc je voulais que cette histoire puisse nous faire voyager ensemble vers un territoire qui nous était tous inconnu, en l'occurrence Molière. Moi, je n'avais jamais travaillé sur Molière. Je m'étais dit, tiens, ce sera l'occasion ou jamais, puisque je ne l'ai jamais fait. Et le fait de le faire en Russie, ça m'a permis aussi donc, de ne pas travailler sur Molière, de travailler sur une traduction, mais d'avoir toujours à l'œil l'original, c'est-à-dire le texte de Molière. Ça m'a permis de faire ce voyage, peut-être avec encore plus de profondeur, puisque je ne travaillais pas sur la pièce. Donc je voyais ce qu'on perdait, je voyais aussi ce qu'on gagnait. En tout cas, j'avais cette matière qui était là et qui me permettait de comprendre ce qu'était Molière, ce qu'il faisait à travers ce que je n'entendais pas dans la traduction de Brioussov. Voilà, ça a été notre voyage à nous français. Le leur a été justement, à chaque fois qu'on avait des problèmes sur la traduction, de revenir toujours sur Molière et de comprendre qu'en fait, cet auteur, qu'il ne connaissait pas, puisqu'il ne l'avait jamais monté, était bien plus grand qu'il ne l'imaginait.
Il faut dire qu'Amphitryon, c'est une sacrée pièce, ouais. Christophe Roeck, et que vous avez bien eu raison de la mettre en scène. C'est une pièce, je le disais tout à l'heure, une pièce où une identité est usurpée, où un visage même est usurpé. C'est un jeu de dupes, c'est un jeu d'identité complètement troublée, c'est un jeu de manipulation et de mensonge. C'est une comédie, mais une comédie assez grinçante. Et alors sur le plateau, les spectateurs de Lille vont s'en rendre compte, et après ceux de Saint-Denis, il y a deux jumelles. Ça, c'est ce que vous avez ajouté, il y a deux jumelles dans cette compagnie des Fomenki. L'une joue le rôle principal, Alcmen, et sa sœur joue deux autres rôles, un petit peu annexes, mais extrêmement importants aussi. Cette sœur, elle s'appelle Polina Koutepova, et nous avons parlé avec elle de l'ambiance un peu folle, ou limite folle, qu'il peut y avoir pendant la représentation. D'ailleurs, on lui a demandé si elle-même, la représentation, l'avait rendue folle.
Moi, personnellement, ça ne me rend pas folle. Mais, bien sûr, dans le concept de metteur en scène, c'était le dédoublement, le reflet, c'est-à-dire que nous, les jumelles, nous sommes dans le contexte de ce qui était conçu par le metteur en scène quand il a pris cette pièce pour la mise en scène. Je ne sais pas si le spectateur, il est... Bon, peut-être c'est le spectateur qui devient fou.
Le spectateur français se dit que la pièce parle de quelque chose qui doit exister en Russie ou qui a existé, qui est un état de surveillance, un état de censure, un état de manipulation et un état de mensonge souterrain. Voilà ce que se dit le spectateur français. Est-ce que ça parle d'une certaine Russie, cette représentation? Je ne parle pas de la pièce, hein, je parle de la mise en scène.
J'aime bien qu'il y a ce sentiment que quelque chose n'est pas dit, mais qui est sous-entendu. J'aime beaucoup quand il y a des choses à réfléchir, à percevoir comme un millefeuille, le sens de millefeuille. Donc pour moi, si le spectateur français l'a saisi, pour moi c'est bien. Moi j'aime ça.
Mais vous, votre lecture de la pièce après le travail de Christophe Roeck, votre lecture d'Amphitryon après que Christophe Roeck vous l'ait fait travailler et vous l'ait fait jouer, est-ce qu'elle a changé et quelle est votre lecture de cette pièce?
Donc, les idées et les versions de Christophe, nous allons essayer de les conserver et de les garder pour nous et de les développer à l'intérieur de la structure. Mais pour moi, c'est le spectacle aussi qu'il s'agit de comment on peut perdre le je, le moi, moi-même. Donc comment une personne peut se perdre et ne plus comprendre où est la fin, le début, et où il faut donner de la tête et qui je suis. Donc, ce qui est pour moi l'idée principale qu'il faut être sur ses gardes pour ne pas la perdre, cette idée. Et on va essayer de ne pas la perdre et suivre les conseils de Christophe.
Voilà, réponse de Paulina Koutepova, traduite par la traductrice de la totalité de ce que vous entendez, c'est-à-dire une excellente interprète qui s'appelle Katia. Elle répond confusion identitaire à la question que je lui pose. Je vous retourne la question, Christophe Roch. Est-ce que montant amphitryon en Russie, c'était pour vous une façon de parler de ce que pourrait être un état totalitaire? Parce que moi qui ai assisté à la première à Moscou, c'est vraiment ce que j'ai ressenti.
Non, c'est pas ce que...
Non, c'est pas ce que vous vouliez au départ.
C'est pas ce que je voulais faire. De toute façon, j'aime pas plaquer comme ça des idées reçues sur des œuvres aussi grandes. Je pense que pour faire parler une œuvre, il faut arriver à lui donner la possibilité de s'envoler sans pour autant l'alourdir avec des sacs à dos. Donc toute la difficulté du travail, elle est là. Elle est d'arriver à nous faire entendre à chacun sa propre histoire. C'est-à-dire que je crois que le théâtre fonctionne de manière très consciente et évidemment dans notre inconscient, mais il fonctionne de manière très consciente. C'est-à-dire que quand on vient à une représentation, on vient avec tout notre bagage intellectuel, tout notre bagage aussi du moment, d'une époque, des problèmes que nous vivons au quotidien ou que l'époque nous renvoie au quotidien. Et je pense que la force du théâtre, c'est de pouvoir tout d'un coup agir chez nous, à cet endroit-là. C'est-à-dire que ce que je n'aime pas au théâtre et ce que je n'ai jamais aimé, c'est lorsque tout d'un coup on m'impose une vision du monde qui va m'enlever à moi le bien-être que le théâtre va me permettre de trouver en voyageant dans mes questions, en voyageant dans mes interrogations. Donc j'ai envie de dire que c'est ça, en fait, toute la difficulté. Pour moi, hein, encore une fois, je parle de moi. Toute la difficulté, pour moi, au théâtre, elle est là. Elle est d'avoir un point de vue sur une pièce. Parce que quand on a un point de vue... C'est comme un acteur. Quand un acteur a un point de vue, c'est suffisant pour donner au spectateur un point de vue, qui n'est pas forcément celui de l'acteur.
Alors, un point de vue de metteur en scène, ça trouve les moyens concrets d'exister, qui sont des moyens suggestifs. Et en l'occurrence, là, avec cette représentation d'Amphitryon, il y a deux moyens. Vous y avez fait allusion tout à l'heure, Christophe Roch, on va revenir dessus. C'est à la fois le son, le traitement du son, et à la fois la scénographie, l'aménagement de l'espace. Je vous propose de passer par la parole de vos deux collaborateurs, le créateur son Xavier Djacot et la scénographe Aurélie Thomas.
Je ne pense pas que ce soit à trahir de raconter un petit peu d'où vient cette scénographie. Simplement, elle vient du jeu sur le double. Ici, au Fomenko, dans la distribution, il y a des jumelles. Et on a voulu continuer le travail de Molière sur l'amusement de prendre la peau d'un autre, de prendre le prénom, la silhouette d'un autre. Et du coup, sur ces effets de double et sur cet effet d'être aussi... de l'autre côté du miroir, on a choisi comme élément scénographique premier un miroir. Le miroir, pour nous, nous permettait à la fois de troubler un petit peu la présence des corps des uns et des autres, mais aussi de proposer un autre point de vue, de renverser le point de vue. C'est ça qui me semble intéressant sur certains tableaux, parce que, bon, après, chacun se raconte ce qu'il a envie, mais on peut aussi se dire que par le prisme de ce miroir, on a comme ça la vue des dieux sur les humains. Donc on peut avoir l'avis de Jupiter sur ce qui est en train de se trafiquer auprès d'Amphitryon et dans sa maisonnée.
Qu'est-ce qu'il vous a demandé, Christophe Roch, quand il vous a demandé de construire la partition sonore de cet Amphitryon en russe?
Il m'a donné les règles du jeu, c'est-à-dire qu'en fait, il souhaitait... On fait un travail de micro assez important. Il a fonctionné par instinct. Alors, on a travaillé avec des micros. Ça fait un énième spectacle repris par des micro-HF. Enfin, c'est très très à la mode actuellement. Cette commande-là, mais très courante là maintenant. Sauf que l'écriture a été que le micro peut être le miroir du personnage. C'est-à-dire que le micro sert à faire le off du miroir. Et ça, c'est une très très belle idée. On a construit ça ensemble et j'avoue que j'ai été très 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 heureux de cette découverte avec lui. Parce que c'est un métier où on tisse sur le long terme. Et quand on découvre la possibilité que l'outil peut raconter d'autres histoires que l'histoire habituelle, c'est très jouissif pour les oreilles. Voilà.
Xavier Jacot, donc créateur sonore, pas un mince compliment hein, qu'il vous fait. Christophe Roque et Aurélie Thomas, que j'ai rencontrés à la fin de la première, ce qui explique un peu le bruit ambiant, puisque c'était le pot de première et que les Russes sont assez joyeux hein, quand ouais. Il s'agit de célébrer ce qu'ils estiment être une réussite et un spectacle abouti. Alors, choix d'une scénographie, on a un peu défloré. Hein. C'est un miroir géant qui bouge, qui s'incline, avec lequel vous faites jouer les comédiens. Choix d'un son, et ça c'est très intéressant ce que dit Xavier Jacot, une sorte de off du miroir à un chef qui joue le même rôle au fond de révélateur. Ça, c'est quand même des signaux que vous envoyez par rapport à ce que vous disiez plus ou moins tout à l'heure, Christophe Roque, c'est des signaux que vous envoyez par rapport à votre lecture de la pièce.
Oui, mais toujours de la même manière, c'est-à-dire que en fait, ce sont des outils pour le spectateur aussi, pour qu'il puisse s'accrocher sur des choses, j'ai envie de dire, non réalistes, pour pouvoir partir dans l'histoire et puis devenir eux-mêmes les acteurs de leur propre histoire à travers ce qu'ils voient. C'est ça la force du théâtre. Après, j'ai eu la chance et j'ai la chance de travailler avec des artistes formidables, hein, que ce soit Aurélie à la scénographie, où là, Xavier au son, qui a fait un travail absolument de titan avec ça. Parce que, justement, les acteurs de chez Fomenko, comme ils ont une identité théâtrale très forte, c'était les seuls, et c'est le seul théâtre qui, jusqu'à présent, refusait les micros. Donc nous, quand on est arrivé avec les micros, au début, ils trouvaient ça un petit peu, ils se sont demandé un peu où on allait, puis à un moment, quand ils se sont rendus compte que vraiment on y allait, ils n'ont plus voulu les prendre. Ils n'ont plus voulu jouer avec. Donc c'est là où on a été obligé de travailler sur et de leur faire entendre et de leur faire comprendre l'endroit où on voulait aller. Et ce qui a été formidable, c'est que tout d'un coup, ils l'ont pris, ils ont pris cette forme-là et puis ils l'ont emmené très très loin, quoi.
Alors, dernière question, Christophe Roque, qui appelle une réponse malheureusement rapide puisqu'on arrive vers la fin de cette émission. Si je vous demande de trancher comédie, tragédie, tragicomédie, moi j'ai opté pour comédie grinçante, ce qui me paraît aller pas mal. C'est-à-dire qu'on rit et en même temps on est assez glacé d'effroi. Vous, vous dites quoi?
Ouais, je trouve ça très bien, comédie grinçante.
Vous restez sur comédie grinçante, vous ne mouillez pas plus.
Non, on a eu un petit dilemme là-dessus, puisque au début, ils voulaient faire rire tout le temps, puisque c'était une comédie. Et je leur disais, mais en fait, tout est tragédie au théâtre. N'est pas tragédie et comédie lorsque la fin se termine plutôt bien, surtout lorsqu'il n'y a pas de mort. Voilà. Mais comédie grinçante, ça me va très bien.
Et il n'y a pas de mort. Roses have thorns and silver fountains mad. Clouds and eclipse, say wolves, moon and sun. And lonesome can her lips and sweetest bud. Merci beaucoup à vous, Christophe Roque, d'être passé nous voir dans une saison au théâtre.
Merci.
Cet amphitryon russe interprété, créé par les acteurs du théâtre Fomenko à Moscou, mise en scène par vous, se joue désormais au Théâtre du Nord à Lille. On verra là-bas du 5 au 17 mai et le spectacle se rendra ensuite au Théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis du 20 au 24 mai. J'espère qu'il y aura une tournée française pour que le plus de spectateurs possible puissent le voir. Merci mille fois.
Merci.
Vous pouvez podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture. Marie Dalquet, Fabien Laléouz, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous saluent. La semaine prochaine, place au second tour des élections présidentielles. Nous vous donnons donc rendez-vous la semaine suivante, le 14 mai, même heure et même chaîne. Et tout de suite, c'est les fictions présentées par Blandine Masson. Vous êtes sur France Culture, restez-y.